Radio Grenouille, 10 minutes avec la rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
10 minutes avec Serge Haroche, professeur du Collège de France, membre de l'Académie des sciences, prix Nobel de physique. Serge Haroche qui intervient aujourd'hui dans le cadre d'une conférence sur le progrès scientifique à l'occasion de la 7e édition des tables rondes de l'Arbois. Bonjour Serge Haroche, vous êtes une éminente personnalité de la recherche fondamentale. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi cela consiste ?
La recherche fondamentale, c'est la recherche qui est motivée par la curiosité, le besoin de comprendre le monde autour de nous, comprendre les lois du monde naturel, de comprendre les lois de la vie et de la biologie, et de comprendre d'où nous venons, quelle est l'origine de l'univers et si possible, vers quoi nous allons, quelles sont les solutions qu'on peut trouver pour répondre aux problèmes qui se posent actuellement en matière, toutes sortes de problèmes reliés à l'énergie, au changement climatique par exemple. Il y a un aspect de recherche fondamentale parce qu'il faut comprendre les choses avant d'essayer d'agir sur elles.
Vous déclarez qu'une forme de vie intelligente dans la galaxie est une possibilité. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Il existe vraisemblablement des planètes qui se trouvent dans des conditions analogues à celles qui ont permis l'émergence de la vie sur Terre. C'est-à-dire des étoiles, des planètes qui ne sont ni trop loin ni trop près de leur étoile pour que leur température soit à la bonne valeur, et des planètes dans lesquelles une atmosphère avec de l'oxygène a pu se développer. À partir de là, si on admet que l'émergence de la vie est un phénomène naturel, on peut supposer avec une bonne probabilité que des conditions d'émergence de la vie sont apparues ailleurs. Alors maintenant, de savoir jusqu'à quel niveau elles sont allées, est-ce que sont développées un niveau d'intelligence comparable ou même peut-être supérieur au nôtre, ça reste du domaine de la conjecture. Mais des recherches très actives ont lieu en ce moment sur les exoplanètes. Et il y a même des gens qui cherchent des signes de vie artificielle en sondant, en essayant de voir s'il n'y a pas des ondes radio qui nous proviendraient du fond de la galaxie et qui ne seraient pas simplement du bruit statique de l'univers, mais correspondraient à des signaux organisés. Ça reste extrêmement difficile et hypothétique. Ce qui est un peu frustrant, c'est que vraisemblablement, si une telle vie existe, on n'a aucun moyen d'entrer en contact direct avec elle parce que se situerait à des millions d'années-lumière de la Terre et aucun moyen de transport ne nous permettrait d'atteindre de ces endroits et d'en revenir. Donc c'est vraiment une recherche fondamentale par excellence puisqu'elle n'a pas d'utilité pratique mais qui est, je pense, fascinante.
Pourquoi vous affirmez que la recherche fondamentale, c'est le socle des innovations qui ont changé notre civilisation ?
Aucune des applications qui... technologie moderne, allant des moyens de communication, de la radio, du téléphone portable, la télévision, l'internet, le GPS, etc., n'aurait été possible si on ne maîtrisait pas les propriétés de la matière au niveau microscopique, si on n'était pas capable de comprendre comment se comportent des électrons dans un métal, comment se comportent des photons dans un faisceau laser, comment se comportent des petits moments magnétiques à l'intérieur de notre corps. Tout cela, c'est venu de la recherche fondamentale. Au départ, les chercheurs qui s'intéressaient à ça, ils se posaient des questions sur la matière, sur la lumière, sans chercher automatiquement à les utiliser. Mais c'est une fois qu'on a compris qu'on a vu qu'il y avait des possibilités d'utilisation. Et s'il n'y avait pas eu cette recherche fondamentale au départ, il était inconcevable qu'au début du XXe siècle, on installe des chercheurs dans un laboratoire en leur disant on veut un GPS. On n'avait même pas la notion de ce que ça pouvait être. Ça n'avait pas de sens. C'est la recherche fondamentale, je crois, on peut vraiment dire que c'est le terreau, c'est le substrat sur lequel la recherche appliquée va se bâtir.
Le changement de mentalité par rapport à l'écologie au niveau mondial, est-ce que vous pensez que ça peut influencer le progrès scientifique ?
Je crois qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs tendances dans l'écologie. La tendance qui consiste à comprendre que la planète est fragile et qu'il faut essayer de l'exploiter de façon rationnelle et de façon sans épuiser les ressources est un aspect positif. Mais les aspects de l'écologie qui font apparaître la science comme uniquement une source de danger et de peur est un aspect négatif. Et le principe de précaution est un principe qui doit être manié précisément avec précaution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'abriter derrière le principe de précaution pour interdire des recherches sous prétexte qu'elles pourraient conduire à des applications négatives, alors que, en fait, à mon avis, il n'est jamais mauvais d'avoir des informations et des connaissances sur le monde. Après, on décide ce qu'on veut faire. C'est aux politiques et à la société de décider si on doit développer telle ou telle voie ouverte par la science. Mais dire que la science doit se fermer les yeux pour ne pas voir certaines choses parce que ça pourrait avoir des conséquences mauvaises, à mon avis, c'est pas une bonne attitude. Il faut chercher, avoir des informations et après décider ce qu'on va développer. Par exemple, dire qu'on ne veut sous aucun prétexte d'énergie nucléaire, à mon avis, c'est négatif, c'est pas bon parce que l'énergie nucléaire joue un rôle positif actuellement. C'est une source d'énergie qui a des avantages par rapport à l'énergie fossile, qui ne fait pas de CO2, qui ne contribue pas au réchauffement climatique, qui donne de l'énergie relativement bon marché. Donc il faut voir tous ces aspects-là et ne pas voir que l'aspect dangereux, il n'y aura jamais de technologies qui auront une probabilité nulle de conduire à des accidents. Ça, c'est absolument un fantasme. Il faut être capable de maîtriser les risques, de les évaluer et de vivre dans une société où de toute façon il faudra prendre des risques.
Vous êtes favorable à l'extraction de gaz de schiste ?
Je ne suis pas favorable à l'extraction de gaz de schiste sous une forme qui va polluer les nappes phréatiques et qui va créer les problèmes que l'on voit ailleurs. Par contre, je suis favorable à l'exploration pour savoir quelles sont les ressources possibles, quelles sont les potentialités, avec l'espoir qu'on trouvera peut-être un jour une façon de l'exploiter non polluante. Mais l'attitude qui consiste à dire « je ne veux pas chercher à savoir parce que si je sais, on va l'exploiter de toute façon », ça ne me semble pas bon. Je pense qu'on peut savoir si on a des ressources et à partir de là, ça donnera peut-être des raisons pour essayer de mettre au point des méthodes d'exploitation propres de la ressource en question. Mais ça dépend beaucoup de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Si on arrive à mettre au point des énergies renouvelables, le solaire ou les batteries, dans des conditions convenables, peut-être que l'exploitation du gaz de schiste sera inutile. Mais on ne peut pas répondre de façon ferme et définitive simplement à partir de dogmes sur ce qui est bon ou pas bon. Je pense qu'il vaut mieux être informé que pas. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on a comme ressources dans le sous-sol et après on décide si ça vaut la peine de les exploiter ou non. Je pense que ceux qui sont contre même l'exploration, c'est parce qu'ils ont cette idée qu'à partir du moment où on saura qu'on a des ressources, la tentation sera irrésistible et on va les utiliser de toute façon. Mais je pense que c'est peut-être un peu à courte vue.
Merci beaucoup.
C'était 10 minutes avec Serge Haroche, professeur du Collège de France, membre de l'Académie des sciences, prix Nobel de physique, sur Radio Grenouille.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec...